est-ce qu'il y a des gens qui suivent le plan de lecture que le Centre Biblic a proposé jusqu'à Pâques? Il y en a parmi vous? Excellent, trop bien. Alors, si vous suivez ce plan, vous avez normalement commencé à lire le samedi 9 mars. Et qu'est-ce que vous avez lu? Ah, Genèse, j'ai entendu. Quelqu'un a le chapitre? Alors, on a parlé d'Abraham, effectivement. C'était Genèse 22. Genèse 22. Alors, vous voyez, c'est très amusant parce que ce jour-là même, ce samedi-là, on a étudié au petit groupe découverte, on a aussi étudié Genèse 22. Alors, j'ai demandé à Henri s'il voulait bien nous faire un petit résumé rapide de ce qu'il avait retenu. Tu veux bien venir, Henri?
Chers frères, chères sœurs, bonjour.
Salut, Henri.
Alors, on a parlé du sacrifice d'Abraham. Alors, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. Abraham, il ne se rebella pas. Hein. Il s'exécuta sans poser de questions. Alors, est-ce qu'il était persuadé que Dieu sauverait son fils? On peut se poser la question. Je pense que Dieu a mis à l'épreuve la foi d'Abraham. Et au moment ultime du sacrifice, Dieu intervena pour arrêter le coup fatal sur Isaac. Dieu fut convaincu de la soumission et de la crainte d'Abraham. Et lui donna un bélier pour sacrifice. Voilà.
Merci, Henri. Genèse 22, verset 8. Abraham répondit : Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Alors, merci, Henri. Et d'ailleurs, si vous aimez bien découvrir un petit peu ce que dit la Bible, il se trouve qu'au Centre Biblic, on a plusieurs groupes en fonction de l'appétence de chacun. Il se trouve que cette semaine, le jeudi soir, on continuera l'enseignement sur 2 Corinthiens. Et puis le samedi, il y aura groupe de jeunes aussi. Si vous ne le saviez pas, nous avons tous un problème grave. Et nous aimons vraiment être autonomes, dire « on gère ». Mais en réalité, nous sommes totalement dépendants de Dieu. Et par nature, nous ne voulons pas l'admettre. Nous sommes des rebelles. Et ça, on appelle ça le péché. Or, pour être réconcilié avec Dieu, après l'offense qu'on lui a faite, il faut un sacrifice. Et c'est un petit peu ce que nous a résumé Henri. Un sacrifice qui ne peut pas venir de notre nature rebelle, qui est autonome, qui cherche l'autonomie. Alors Dieu fournit un substitut, un bélier, un agneau parfait, sans tache. Rien ne peut sauver une âme, sauf le sacrifice de Dieu lui-même pour ses bien-aimés. plus tard, dans la semaine, vous avez peut-être lu Ésaïe 53. Ésaïe 53, des fois, il est appelé le cinquième évangile, parce qu'on a une description du sacrifice de Jésus qui est tellement claire, tellement limpide. Je vais vous en lire un petit extrait. « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Et pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. » Le texte d'Ésaïe, 8 siècles après le texte d'Ésaïe. Effectivement, Jésus le savait, il allait souffrir. Et on le lit dans votre plan de lecture, à Marc 10, versets 33 et 34. « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres, aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux non-juifs, ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, ils le fouetteront et le feront mourir. » Et 3 jours après, il ressuscitera. encore un jour plus tard, Éphésiens 2, versets 4 à 7. « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ. Il a fait cela afin de nous montrer, dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » Gloire à Dieu pour l'incroyable amour qu'il nous montre en donnant ce qu'il a de plus cher pour nous donner la vie. La vraie vie à ses côtés. Après ces chants et ces lectures, peut-être vous vous disiez encore « Ouais, mais la Bible, c'est un livre quand même bien poussiéreux. Et puis Jésus, bon, il a peut-être existé, mais bon, vraiment, Dieu, il agit encore aujourd'hui ? Vraiment ? Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, il agit vraiment encore aujourd'hui ? Est-ce que ça change encore quelque chose dans la vie de quelqu'un, de croire en Jésus ? Alors j'ai envie de poser la question à Mélissa. Qu'est-ce que t'en penses, Mélissa ? Je n'ai pas vu Mélissa, je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là. Qu'est-ce que t'en penses, Mélissa ?
Victor, c'était exactement ça. Pour moi, la Bible était un livre vraiment poussiéreux. Je ne voyais pas comment, de nos jours, on pouvait réellement croire que ce qui était marqué dedans est vrai, et même que Dieu existe. Mais pourtant, quand j'étais étudiante, Dieu s'est révélé à moi à travers des étudiants au FEU, donc Foyer évangélique universitaire de Clermont-Ferrand. Ils m'ont invité à un repas bien sympa. Et là, quand j'ai découvert que c'était des chrétiens, j'ai eu un petit peu peur, quand même. Mais quand même, ça m'a interpellée. Comment est-ce qu'on pouvait sincèrement être étudiant actuellement, donc avoir un esprit logique, connaître un petit peu aussi la science, et puis croire en Dieu? C'était un petit peu deux choses antéposées. Et au final, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien de leur foi. Donc à part dire non, ce que vous croyez, c'est que du vent, j'avais rien comme argument dans la discussion. Alors, j'ai voulu étudier un petit peu la Bible pour voir un peu plus profondément dans ce livre qu'est-ce qu'il y avait et un petit peu argumenter contre eux. Donc, je me suis inscrite à tous les groupes de découverte de la Bible qu'il y avait. Et puis, pendant un an, j'ai ouvert la Bible et on a lu. Et puis, pendant ces études, j'étais toujours assise en face d'un tableau qu'une étudiante avait fait. Et ce tableau, c'était pour moi la première représentation que je voyais de Jésus sur la croix. On le voit. Qui n'était pas triste, où on ne voyait pas la mort, mais on voyait la vie et la joie qui s'en dégageait. Et ça m'a vraiment interpellée. Et au fur et à mesure de la découverte de la Bible, en fait, Dieu m'a convaincue déjà de son existence, mais aussi de la véracité de sa parole. Comment est-ce qu'un livre pouvait avoir ce même fil conducteur pendant autant d'années, avec autant d'auteurs différents, sur des aires géographiques différentes ? Et il m'a aussi convaincue de la divinité de Jésus. Et j'avais très envie, moi aussi, de faire partie de son Église. Le seul problème, à mes yeux, à ce moment-là, c'était mon absence de péché, que je croyais, parce que j'étais une enfant sage. Mais Dieu a aussi utilisé sa parole pour me montrer que j'étais aussi pleine de péché, que j'étais rebelle contre lui. Et donc, il était patient envers moi, il m'a menée à la repentance, qui n'est pas une chose facile quand on n'a jamais appris à demander pardon et à reconnaître ses erreurs. Mais voilà, il était patient et bon. Et un autre obstacle aussi, c'était l'annonce à ma famille. Je savais, en lisant la parole, on le voit clairement, que Dieu demande d'être radical pour lui. Il doit avoir la première place en tout, au-dessus de tout. Et je ne pouvais pas dire non à Dieu. C'était une force qui m'attirait à lui. Mais il y avait aussi ma famille de l'autre côté. Et il a fallu à un moment donné juste lâcher prise et lui faire confiance. Et je le remercie vraiment, j'en suis très reconnaissante parce que ça s'est bien passé avec ma famille. Le dialogue est de plus en plus ouvert et là. Et voilà. Et ma famille est témoin aussi de ce changement qu'il y a eu en moi depuis ce moment-là. Ils voient la joie, la sérénité que j'ai, que ma vision du monde n'est plus du tout la même. Et je le remarque aussi que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Je suis moins en colère, j'ai plus de joie de vivre. Et, Et maintenant, c'est important pour moi de partager à d'autres aussi ce message de paix que Dieu nous demande d'annoncer aux autres, parce que même en étant en France, en banlieue parisienne, je n'avais jamais rencontré de chrétien de toute ma vie, jusqu'à l'âge des études, quoi. Donc voilà, je nous encourage encore à être des témoignages de ce que nous avons chanté, quoi, cette joie qu'il y a d'appartenir à Dieu.
Merci beaucoup, Mélissa. Waouh, Dieu agit encore aujourd'hui, hein ? C'est incroyable. Et il prépare aussi les choses d'avance. Vous l'avez peut-être lu aussi dans votre plan de lecture. Il est venu sur Terre. La venue sur Terre de Jésus, pardon, était ultra bien préparée. Et vous, si vous persévérez dans le plan de lecture, vous le lirez lundi, normalement, dans Luc 3 et Jean 1. J'aime beaucoup le prochain chant qu'on va chanter, parce qu'il a un côté un peu narratif et il nous réapprend la structure de la révélation de Jésus après sa résurrection. D'ailleurs, la résurrection de Jésus, vous le lirez normalement le samedi 30 mars, si vous voulez prendre un peu d'avance. La première strophe, on peut peut-être même l'afficher, Mimi, on parle des disciples, notamment des femmes, qui ont découvert le tombeau vide. Incroyable. Il y avait une grosse pierre devant. Pourquoi il est vide ? La deuxième strophe, on parle des disciples d'Emmaüs qui parlent avec Jésus, et puis Jésus leur explique voilà, qu'il était annoncé depuis le départ. On parle de lui dans Ésaïe 53, mais ils n'avaient pas tout capté, et là, d'un coup, ils comprennent. Et quand ils ont tout compris, eh ben, Jésus disparaît. Et la dernière strophe nous parle de la propagation de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus par les disciples de Jérusalem, puis à Rome, puis aujourd'hui, dans le monde entier. Alors je crois que les enfants le connaissent particulièrement bien, ce chant. Alors je veux vous entendre.
Jésus vit, Maria. Bien, bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Oui, un petit truc. Merci. En tout cas, je suis heureux et reconnaissant de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et voilà, je vous propose de débuter par cette expression consacrée, en tout cas en France, lorsqu'un monarque mourait. Vous savez ce qu'on disait ? Le roi est mort, vive le roi. Parce qu'il était immédiatement remplacé par un autre roi, bien souvent son fils d'ailleurs. Alors, il n'y a plus de roi en France depuis un moment déjà, mais nous avons des voisins anglais qui ont une monarchie très populaire, avec des médias qui suivent leurs faits et gestes au quotidien. C'est ainsi qu'on a pu assister le 19 septembre 2022 à la retransmission mondiale des funérailles de la reine d'Angleterre, donc Elisabeth II. C'était à l'abbaye de Westminster et puis ensuite au château de Windsor. Il paraît que ça, finalement, le coût global total des 12 jours qui ont duré les différentes commémorations s'élevait à 186 millions d'euros. Enfin, après, c'est en livres là-bas, mais... Et puis, il y a eu le 6 mai 2023, avec le même faste, à peu près 115 millions d'euros, le couronnement du roi d'Angleterre, n'est-ce pas, Charles III, son fils. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi, j'ai eu l'occasion de voir quelques images de ces événements. C'était vraiment très impressionnant, avec des foules immenses qui brandissaient des drapeaux au passage du convoi, qui déposaient des bouquets de fleurs, mais sur des surfaces incroyables, hein, avec des gardes royaux partout, des représentations officielles de tous les présidents du monde qui se rendaient aux funérailles de la reine, et puis le convoi aussi du monarque avec son carrosse qui était acclamé par la foule, mais sur des kilomètres et des kilomètres de long, avec des orchestres, des chorales. C'était grandiose, dans une ambiance assez exceptionnelle, hein, je dois dire, et qui marque bien la popularité du roi auprès de ses sujets. Alors, je ne sais pas trop ce qui plaît aux Anglais dans ce genre de cérémonie, ni pourquoi ils sont tellement accros à leur roi, mais je constate qu'effectivement, c'est quelque chose qui les unit véritablement et qui fait leur fierté. Peut-être d'ailleurs que vous avez pu voir hier soir encore avec quelle ferveur les rugbyman anglais chantent leur hymne, hein, « God save the king ». Mais bon, ça ne nous a pas empêché de les battre, non. Du coup, je me suis dit qu'en tant que chrétien, eh bien, nous avions aussi quelque chose de ressemblant. Parce que nous formons un peuple, une grande église, avec un roi, Jésus, que nous célébrons. D'ailleurs, on vient tout juste de chanter « Alléluia, Jésus vit, il règne ». En Seigneur, honneur au roi vainqueur. Mais quelle image nous avons réellement de notre roi ? Qu'est-ce que nous attendons de lui ? Éventuellement, qu'est-ce qu'il attend de nous ? Et qui est-il vraiment ? Alors, je sais bien que c'est les questions de toute une vie et que nous n'aurons pas de réponse définitive avant d'être devant son trône au ciel. Mais quand même, y réfléchir quand même dès maintenant, eh bien, ça peut nous aider pour savoir comment vivre en tant que peuple de Dieu, en tant que sujet de ce roi. Et puis, ça peut influencer nos relations avec lui et nos interactions entre nous. Et c'est un verset, un seul petit verset que j'ai découvert en préparant ce fameux plan de lecture dont Victor a si bien fait la publicité et qui va nous conduire jusqu'à Pâques. Ce seul petit verset qui a attiré mon attention ce matin sur le roi des rois. Alors, je vous propose de le lire ensemble ce matin et de vous partager trois choses que nous découvrirons sur notre roi, mais tout d'abord, prions. Seigneur, oui, c'est toi que nous voulons découvrir, c'est toi, notre roi, que nous voulons célébrer. Je te prie, Seigneur, d'attirer nos regards à toi, de nous conduire dans la lecture de ta parole et de nous rendre sensibles aussi à ta voix, Seigneur, qui veut parler à nos cœurs. Merci, Seigneur. Amen. En fait, on va lire un peu plus qu'un seul verset, même si on s'arrêtera plus en détail sur celui-ci. Il se trouve dans le prophète Zacharie. Alors, Zacharie, ce n'est pas un livre qu'on visite très souvent. C'est à la fin de l'Ancien Testament, juste avant Malachie, et donc ensuite, il y a l'évangile de Matthieu. Donc, Zacharie, il est né en 550 avant Jésus-Christ, bien entendu. Il est né à Babylone, là où le reste du peuple d'Israël est en exil suite à la destruction de Jérusalem et à la déportation de tous ses habitants durant 70 ans. On est sous le règne du roi babylonien qui s'appelle Cyrus. Et c'est alors que ce Cyrus, guidé par Dieu certainement, décide de permettre à Zorobabel, Néhémie et d'autres frères juifs de retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple de l'Éternel. Et Zacharie fait partie de l'équipe, en tout cas, il observe tout cela avec intérêt en tant que prédicateur, prêtre probablement, et surtout prophète, prophète à qui Dieu adresse des paroles, des révélations parfois assez compliquées, je dois le dire, qu'on peut lire dans ce livre de Zacharie. Donc ce matin, on va s'intéresser au chapitre 9, comme vous le voyez là, dans lequel Dieu révèle à Zacharie ce qui va se passer après la reconstruction du temple de Jérusalem, avec le jugement et la victoire de Dieu sur les nations qui entourent Israël, et puis l'entrée du Messie qui vient annoncer au monde la paix et son royaume universel. Alors, on ne lira que les versets 9 à 13 pour avoir un minimum de contexte quand même. Donc je vous le lis comme c'est affiché là. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a plus d'eau. Retournez à la forteresse, prisonnier plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. En effet, je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'une flèche, et je soulèverai tes fils. Sion, contre tes fils, Grèce, je te rendrai pareil à l'épée d'un héros. » Voilà, jusque-là la parole de Dieu. Vous voyez que c'était assez imagé, assez coloré, et on peut se demander comment tout ça résonnait à l'époque de Zacharie, où Zacharie a prononcé ses oracles aux oreilles des auditeurs de son temps. Alors, sans être un grand historien, j'ai cru comprendre de mes lectures que les Juifs de retour à Jérusalem étaient évidemment heureux de pouvoir reconstruire leur temple, d'abord donc leur ville, d'abord le temple et ensuite les murailles, comme nous l'avions d'ailleurs vu dans les études bibliques des livres d'Esdras et de Néhémie il y a quelques années. Mais les Juifs de Jérusalem restaient sous la domination de la Perse et subissaient l'animosité des peuples qui les entouraient. Et c'est que 100 ans plus tard, après ce texte, que paraît Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est un roi grec qui renverse les Perses et tous les ennemis d'Israël d'ailleurs, mais qui épargne Jérusalem. Eh bien, il accomplit ainsi, malgré lui, une première partie des prophéties de Zacharie. Malheureusement, sous le règne d'Antiochos Épiphane, c'est son successeur, la liberté religieuse des Juifs, elle est compromise. Le temple, il est profané. Avant que quelques Juifs ne se révoltent et tentent de rétablir le culte juif. Et là, nous arrivons en 63 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire encore 250 ans plus tard qu'Alexandre le Grand, et il y a Pompée, Pompée, c'est un grand militaire romain qui a conquis la Palestine, et Hérode, le fameux Hérode, est nommé, couronné, sacré roi de la Judée. Mais les Juifs sont désabusés parce que d'un envahisseur qui en chasse un autre, eh ben c'est guère mieux avec l'un qu'avec l'autre. Mais où est le Messie promis ? Où est le roi qui va les libérer de ce joug étranger ? C'est cela que les Juifs attendent, un libérateur. Et après 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien, c'est dans ce triste contexte que Jésus-Christ va apparaître. Souvenez-vous donc de ce verset 9 qui est encore affiché, que nous venons de lire. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, non, le petit d'une ânesse. » Alors, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec l'épisode de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, une semaine avant la Pâque juive, et qui nous est raconté dans les quatre évangiles, avec quelques détails en plus dans l'un ou dans l'autre, mais on va prendre le temps de lire ce matin le récit qu'en fait Matthieu dans son évangile au chapitre 21. Donc Matthieu chapitre 21, et on va lire les versets 1 à 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Verset 5, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les cieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Mais qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alors nous n'allons pas commenter ici ce récit. Je vous invite à le relire à la maison durant la semaine et je poursuis la publicité. Mercredi prochain, eh bien, je crois que c'est le passage qui est proposé dans le plan de lecture que nous avons diffusé jusqu'à Pâques et qui est encore disponible, je crois, dans le mail de la semaine. Mais je voudrais, pour revenir à Zacharie, souligner trois aspects de ce roi qui sont décrits dans Zacharie au chapitre 9 et le verset 9. Un roi qui est juste, un roi qui est victorieux et un roi qui est humble. Donc premièrement, voici ton roi, il vient à toi, il est juste. Il est juste, ça fait référence au caractère de ce roi et à la façon dont il va régner. La majorité des rois étaient arrogants, sans pitié, corrompus. Ils servaient plus leur ego et ne rendaient qu'une parodie de justice. Mais les prophètes annoncent les uns après les autres que le roi Messie, celui qu'on attend, sera complètement différent. Ésaïe appelle le Messie « mon serviteur juste » dans Ésaïe 53, là au verset 11 qu'on a cité tout à l'heure. Jérémie le décrit aussi comme celui qui régnera et prospérera. Il pratiquera, dit-il, la justice et l'équité dans Jérémie 23, au verset 5. Le roi parfait doit être un champion de la justice. Et quand les dirigeants corrompus réussissent tout le temps à s'en tirer, malgré leurs entourloupes, alors que les gens intègres souffrent sans possibilité de recours, eh bien, la promesse que la justice va triompher, c'est une source de joie profonde. Réjouis-toi, lance des acclamations, est-il écrit dans Zacharie 9:9. Dans le Nouveau Testament également, l'apôtre Pierre appelle Jésus le Saint et le Juste. C'est dans Actes 3, au verset 14. Et il dit, ce même Pierre, dans sa première épître, « Jésus-Christ est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. » 1 Pierre 3,18. « Lui juste pour les injustes. » Les injustes, c'est nous, c'est moi, nous le sommes tous. Depuis l'entrée du péché dans le monde, il n'y a pas de juste, pas même un seul, dit la Bible dans Romains 3, 10. Sauf le Fils de Dieu, le roi qui vient à nous. Il est juste, lui. Il vient pour nous amener à Dieu. Ça signifie d'abord que nous sommes loin de Dieu. Il dit que nous étions même des ennemis de Dieu. Nous vivions en opposition constante à la volonté de Dieu, et Mélissa l'a rappelé aussi tout à l'heure dans son témoignage. Nous vivons en opposition à la volonté de Dieu, à sa loi qui est bonne et qui est sainte. Jésus, lui, né sous la loi, eh bien, il a vécu toute la loi. Il l'a accomplie parfaitement. Il est juste par excellence. Jésus est celui-là seul, parmi les injustes que nous sommes, qui peut être déclaré juste par la foi. Et on l'a relu tout à l'heure dans Ésaïe 53, je le répète, il a dit « Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. » C'est exactement ce que Jésus a fait. Il s'est chargé de nos fautes. L'apôtre Paul le dit aussi à sa manière dans 2 Corinthiens 5 au verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il le dit encore plus loin, 1 Corinthiens 1:30, « Jésus-Christ est pour nous justice. » Pour nous justice, c'est le « nous » qui englobe tous les vrais croyants. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, eh bien, ils n'ont aucune justice et ils sont donc toujours sous le coup de la colère de Dieu. Deuxièmement, un roi victorieux. Voici ton roi vient à toi, il est victorieux. Dans l'histoire d'Israël, tout au cours des différents rois qui se sont succédés, eh bien certains ont aidé un peu à améliorer l'économie, certains ont remporté de grands succès militaires, certains ont ravivé la fierté nationale, avec un certain enthousiasme peut-être, mais même leurs plus grandes réussites, elles ont été temporaires. Aucun d'eux n'a pu donner le salut éternel dans le sens biblique du terme, à savoir la délivrance du péché, ce mal qui ronge l'humanité, qui est à l'origine des disputes, des convoitises, des guerres, de la haine. Aucun. Seul le roi Messie, qu'annoncent les prophètes, a le pouvoir de faire cela. Et d'ailleurs, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a dit dans Actes 4:12, « Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés parmi les hommes. » Aucun. L'apôtre Jean dit la même chose d'ailleurs dans son épître quand il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est 1 Jean 5, les versets 11 et 12. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est l'annonce heureuse de la grande victoire du Fils de Dieu et de son triomphe. Je pense aussi à ce verset d'Hébreux 2, 14, qui dit que Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ou encore dans 1 Jean 3, 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus a vaincu tout ennemi, il est victorieux, il est vainqueur, et il nous associe à sa victoire. On peut lire dans Romains 8, d'ailleurs, en parlant de tous ceux qui croient, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Mais attention, si Jésus-Christ fait la guerre, c'est pour avoir la paix, pour gagner la paix. Et quelle paix ce roi propose-t-il au juste? Eh bien, tout d'abord, la paix avec Dieu lui-même. C'est-à-dire la réconciliation avec Dieu pour des personnes qui, comme nous, comme moi, étaient en guerre contre Dieu. Et comment est-ce que ce roi peut apaiser Dieu? Comment les pécheurs que nous sommes, que je suis, peuvent-ils oser prier comme ce publicain au temple « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ?» Eh bien, la Bible dit que Jésus-Christ nous permet d'être en paix avec Dieu par son sang versé sur la croix. Lorsque Jésus entre à Jérusalem de son plein gré, il sait que la colère de Dieu peut être apaisée par son sacrifice d'obéissance. Jésus-Christ est mort sur la croix, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. La mort n'avait plus aucun pouvoir sur lui. Parce que Jésus nous apporte la paix et Jésus-Christ est le prince de la paix. Il enlève le péché et on lit dans Philippiens 4, 17 que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, eh bien, elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Troisièmement, ce roi est humble. Voici ton roi vient à toi, il est humble. La plupart des rois s'entouraient avec assez d'extravagance et de grande pompe. Ils vivaient dans des palais luxueux, avec des troupes de serviteurs à leur service, à leur disposition, et leur style de vie manifestait quand même un statut privilégié. Ils étaient, donc, comme on l'a dit, la plupart du temps, arrogants, dominateurs, ils intimidaient, ils écrasaient les autres, ils étaient remplis d'orgueil, d'ailleurs souvent, leur nom reflétait cette grandeur, hein, avec Cyrus le Grand, Alexandre le Grand, Hérode le Grand, Constantin le Grand, etc. Le Grand, le Grand, le Grand. Alors il y en avait qui étaient aussi le Gros, le Machin, mais bon. Le contraste avec le roi Messie annoncé ne peut pas être plus évident. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Marc 10, 45. À une autre occasion, il dit même à ses disciples, les renards ont une tanière et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour reposer sa tête. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 8 au verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et Jésus dit encore dans Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur. » C'est d'ailleurs la seule mention du cœur de Jésus dans toute la Bible, « doux et humble ». Et ça concorde effectivement avec ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il parle dans 2 Corinthiens 10 de la douceur et de la bienveillance de Christ. Aucun homme dans l'histoire ne s'est abaissé comme Jésus l'a fait. Et aucun n'a été élevé en conséquence de son œuvre. Et finalement, les deux premières caractéristiques qu'on a relevées, victorieux et humble, maintenant, eh bien, normalement, c'est incompatible. Mais en Jésus, ça trouve une harmonie qui est parfaite. même si l'humilité, ce n'est pas la caractéristique habituelle des rois, ni celle de nos dirigeants actuels, eh bien, admirons la modestie de ce sauveur aimable qu'on peut approcher avec confiance parce qu'il sympathise, il comprend et il secourt notre faiblesse. L'arrivée de certains rois a porté la peur, la terreur même, mais l'arrivée de Jésus ici, vous voyez, elle apporte l'allégresse, la joie. Son but, c'est d'apporter le salut pour ceux qui lui font confiance. Il est vraiment différent des rois habituels. D'ailleurs, il arrive à Jérusalem monté sur un âne. Et un âne, ça n'a pas une bonne réputation, n'est-ce pas? Quand on dit « mais quel âne ?» Ou bien on va lui mettre le bonnet d'âne. L'âne, ce n'est pas un animal qui a bonne réputation et il est décrit comme peu intelligent, comme têtu, comme lent, voire méchant. On a beaucoup de préjugés sur l'âne et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Surtout en Orient, où l'âne, eh bien, c'était même la monture préférée des patriarches. C'était finalement même un signe de richesse. On a parlé tout à l'heure d'Abraham qui montait avec Isaac sur le mont Morija. Ben, il a pris son âne, il montait sur un âne. On y lit même aussi dans Nombre 22 l'histoire d'un âne à qui Dieu a donné la parole temporairement, l'âne de Balaam. Et finalement, plus que le cheval, l'âne, c'était l'animal le plus utile à l'homme, autant pour le travail agricole que pour les transports et pour les déplacements. C'était plus que le cheval, encore une fois, un symbole de paix et une marque d'humilité. On lit dans Ésaïe 31, par exemple, verset 9, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui placent leur confiance dans un grand nombre de chars et la force de leurs cavaliers, mais qui ne portent pas leur regard sur le Saint d'Israël, qui ne recherchent pas l'Éternel. » Et David dit dans le psaume 20, « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous, nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. » Et effectivement, ce roi David, là, qui a écrit le psaume 20, il avait déjà été l'objet de prophéties dès la Genèse. On lit dans Genèse 49, au verset 10 et 11, que lorsque Jacob était en train de mourir, il promet à Judas, un de ses fils, et ses descendants, il promet à Judas que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel ils appartiennent, et que les peuples lui obéissent. Et il continue en disant, il attache à la vigne son âne, et au meilleur de ses ceps, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et le sang des raisins son manteau. Donc ces ânes, ils avaient des promesses dans la Bible, sont très présents, et ça me donne de l'espoir, moi, que même les ânes dans la Bible, eh bien, ils ont des promesses. Et effectivement, le roi David, il est issu de la tribu de Judas, de cette promesse faite par Jacob à Judas. Et David lui-même, il a reçu la promesse, avant de mourir, du prophète Nathan, que sa maison et son règne seraient assurés pour toujours après lui, que son trône sera affermi pour toujours. Et près de 1000 ans, 970 ans plus tard, eh bien, c'est Jésus que la foule acclame en disant « Fils de David !» Et effectivement, quand il rentre de Jérusalem, monté justement sur un âne, eh bien, la foule, malgré elle peut-être, reconnaît en Jésus l'accomplissement des promesses de la venue du Messie, du roi promis. Par sa généalogie, Jésus venait effectivement de la descendance du roi David. Mais bien plus encore, Jésus a montré par sa vie, par ses actes, par ses miracles, par sa mort et par sa résurrection, qu'il est effectivement ce roi parfait qui a été si longtemps attendu. Et à l'autre extrémité de la Bible, dans l'Apocalypse, même dans le dernier chapitre, au chapitre 22 et au verset 16, tout à la fin de la Bible, on y lit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Et c'est vraiment beau, je le trouve, comme Mélissa l'a souligné tout à l'heure, de voir cette cohérence, cette continuité du début de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, avec comme fil rouge la personne de Jésus, le roi promis, attendu, le Messie. Voilà, donc tout ce que nous avons venons de voir, peut-être que ça nous aide à comprendre la parole de Jésus et à comprendre aussi, par exemple, ce que dit Jésus à Pilate lors de son procès, de son arrestation, lorsqu'il dit, Jésus à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pas de ce monde, pas d'ici-bas. Si Jésus était roi, qui prétendait à un trône au sens qui pouvait menacer les gouverneurs de l'Empire romain, eh bien, il aurait mobilisé effectivement ses disciples, même des myriades d'anges, est-il dit, pour combattre et pour empêcher son arrestation. Mais ça n'a pas été le cas. Le fait que Jésus ait pu être arrêté aussi facilement, qu'il ait même repris Jésus sévèrement un de ses disciples qui cherchait à s'appuyer sur l'épée, sur la force, pour le libérer, eh bien, ça prouve que son royaume est d'un autre ordre. Il n'est pas de ce monde, il n'est pas d'ici. Mais ça ne veut pas dire non plus que son royaume n'est pas actif dès à présent, ici. Au contraire, Jésus précise d'ailleurs à Pilate, « Je suis venu ici, sur terre, pour rendre témoignage à la vérité. » Et le royaume de Jésus-Christ, c'est la vérité. La principale façon, d'ailleurs, que Jésus a de faire rentrer ses sujets dans son royaume, eh bien, c'est d'exercer son salut, c'est de dévoiler la vérité sur Dieu. La vérité sur le salut, mais aussi sur le jugement de Dieu. Et Jésus agit dans nos cœurs par sa puissance et par sa vérité révélée dans sa parole. Et il est important que nous puissions nous en souvenir. Parce que l'Église est appelée à proclamer l'Évangile, non pas par l'épée ou l'arrogance, mais avec l'esprit humble de son roi sauveur. Tout comme ce roi n'est pas venu dans le monde avec une puissance militaire, et bien pareil, son règne n'est pas établi avec des principes humains, charnels, mais avec des principes spirituels. Et en tant qu'Église, eh bien, nous pouvons nous revêtir de cette humilité, à l'exemple de Christ, pour rendre témoignage à la vérité. L'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, c'est le triomphe de la justice, c'est le triomphe de la victoire sur le péché, le triomphe de la paix. C'est aussi le triomphe de l'humilité, pour qu'il soit notre roi. Eh bien, en voyant cette perspective heureuse, pas étonnant que le prophète Zacharie invite les habitants de Jérusalem à se réjouir. La plus grande cause de tristesse dans notre vie, c'est le péché. Mais Jésus vient ôter le péché. Alors soyons dans la joie et dans l'allégresse. Zacharie, ce porte-parole de Dieu, il appelle le peuple croyant à être encouragé en regardant plus loin dans le futur. Un futur qui soit contrôlé, transformé par le règne du roi. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, eh bien, continuons nous aussi à regarder de l'avant vers notre glorieuse vocation, notre futur qui sera transformé par Jésus-Christ lors de sa deuxième venue. Nous attendons son retour, n'est-ce pas ? Nous regardons vers la fin du péché et de la souffrance. Nous regardons vers notre maison éternelle. Nous regardons vers ce grand jour où nous serons avec le Seigneur pour toujours. Et ça, c'est vraiment encourageant. La peur du futur pourrait nous paralyser, l'incertitude, mais plutôt que de permettre au futur et à nos pensées de nous étouffer, de nous agripper, faisons monter vers le ciel des hosannas, comme disait le peuple à Jésus quand il est rentré. Hosanna, ça veut dire « Sauve-nous, t'en prions ». Et parce que notre roi nous a sauvés, parce que sur l'infâme croix, où Jésus fut meurtri pour moi, il est mort pour mes péchés, parce qu'il est ressuscité au matin du troisième jour, parce que le Fils des cieux est ressuscité, que la mort n'est plus, qu'elle est vaincue, alors nous pourrons chanter librement le refrain de ce cantique que nous allons interpréter maintenant, et qui dit dans son refrain « Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, ô gloire à toi, ô Dieu, à jamais. »
Continuer sans fin. Mais on va quand même s'arrêter là. Alors j'ai laissé la place à Christophe en disant qu'il avait quelques petits trucs à nous laisser, à nous annoncer, à nous dire. on est très très loin du petit truc pour sa vie de tous les jours. On est plutôt sur le truc le plus important de toute notre vie. C'est un choix que vous avez à faire, que vous avez peut-être déjà fait. Et peut-être vous avez cette joie débordante de connaître Christ. Et peut-être que vous bouillonnez et que vous ne pouvez pas rester là, assis sur votre chaise. Juste, là, je vois Gaël qui s'agite là derrière. Il existe plein de moyens de vous engager pour utiliser ce bouillonnement à la gloire de Dieu. Et par exemple, il y a des activités de l'Église qui le permettent. Samedi 23, là, qui vient, à 14h, il y a un atelier d'évangélisation relationnelle avec Alain Stirneman, pour ceux qui, c'est la suite des différents ateliers qui a déjà eu lieu ici. Et puis, plus tard, le 30 mars, il y aura un temps de chant en ville. Et là, je crois que Laurent a des petites précisions à nous donner.
Oui, bonjour à tous, merci Victor. Oui, donc effectivement, quand on est chrétien, qu'on a découvert la joie d'être sauvé par Christ, on a envie de chanter sans fin ses louanges, on va commencer de le faire maintenant. Et on a pris l'habitude depuis déjà quelques années, hein, depuis 2015, de prendre à plusieurs des cantiques en ville devant le restaurant Le Tigre, parce que le propriétaire nous est très favorable, il aime qu'on vienne chanter devant lui. Donc quand quelqu'un qui n'est pas chrétien aime que des chrétiens viennent chanter les louanges de Dieu devant ses établissements, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on y va. Alors, on a pu le faire presque tous les ans depuis 2015, sauf les années Covid. Donc, ça aura lieu cette année de nouveau, le samedi 30, donc à 15h au Tigre. Alors, si vous êtes membre et que vous avez envie de chanter, rejoignez-nous. On est déjà, je crois, une petite douzaine pour le faire. On sera vraiment content de vous avoir en plus. Et puis, si vous n'êtes pas encore membre et que vous avez à cœur de soutenir tout ça, ben, vous venez nous rejoindre. Ou si vous ne voulez pas chanter, tout simplement, venez nous rejoindre. Faites nombre quand il y a un petit groupe de chanteurs en ville et qu'il y a du monde qui écoute. Ça attire. Et puis, à cette occasion, il est aussi possible, et grâce à la liberté dont on dispose encore dans notre pays, on peut prendre un micro et on peut annoncer que Christ est vivant. On peut le dire clairement, même si les gens ne saisissent pas toutes nos paroles parce qu'on n'est pas des pros. On peut le dire clairement au micro et ça, ils vont bien le comprendre. Et on voudrait que la parole de Christ soit partagée. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, notre célébration va continuer toute la semaine. Mais je vais vous inviter à la prolonger là tout de suite, tous ensemble, pour trois bonnes raisons. La première, c'est qu'il y a un apéro juste après. Ça, c'est une bonne raison de rester quand même, non ? Ensuite, la deuxième, c'est que nous aurons un temps de scène juste avant l'apéro. Donc vous verrez que les tables ne sont pas encore garnies. Je vous propose de rester autour des tables et on va prendre la scène ensemble. Je vous donnerai plus d'instructions au moment venu, mais on peut se rassembler autour des différentes tables. Le pain et le vin est réparti sur les tables. Et puis, la troisième bonne raison, c'est que vous avez vu là, par-ci, par-là, des petites affiches d'œuvres qui sont implantées à Haguenau ou aux alentours. En fait, cette joie qu'on a de connaître le Fils de Dieu, on a vu, on ne peut pas la garder pour nous. Et cette joie débordante, il y a des gens parmi nous qui l'expriment de bien des façons différentes. Il y en a qui font du bien à nos oreilles, et vous reconnaîtrez peut-être Phare FM. Il y en a qui font du bien à nos yeux. Alors, c'est le stand du Forum du Livre, là-bas, que vous pourrez visiter. Et puis, il y a ceux qui font du bien à nos ventres et à nos cœurs, le Safe Haven et l'association Chrysalide, qui sont aussi là, et que vous pourrez du coup visiter. Je vous encourage à aller les voir, à prier pour eux, à vous investir si votre joie débordante vous le dit de le faire. Et pendant que vous visiterez ça, vous aurez l'occasion aussi de déguster un bon apéro. D'autres activités vont être de nouveau affichées derrière moi. Vous pourrez prendre le temps de les noter et de les transmettre aussi aux personnes de l'Écodim qui n'ont pas vu ces annonces. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Dans l'attente active du retour du roi éternel et glorieux, je vous souhaite une bonne semaine dans cette joie débordante au service de Jésus.